Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler avec ma femme d'aujourd'hui de sa carrière et de sa condition de femme universitaire. Souvent, on conçoit la femme universitaire comme cette femme qui a un métier de luxe, un métier idéal pour sa condition, pour sa situation de femme et de mère éventuellement lorsqu'elle est d'épouse. Mais ma femme d'aujourd'hui va nous démontrer que c'est loin d'être un métier de tout repos. On y va.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Selma El-Hassani, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Selma ?
Très bien, je vous remercie, Yasmine.
Un plaisir de vous avoir. Une femme universitaire. Selma, vous êtes prof universitaire depuis combien d'années ?
Depuis maintenant 8 ans.
D'accord. Donc, une nouvelle expérience ?
Oui, une nouvelle expérience, puisque j'étais avant, j'étais au ministère des Finances, donc à la direction des impôts. Donc, c'était une fonction qui était tout à fait différente. Et donc, c'est une fonction que j'ai toujours souhaité exercer de toute manière. Donc, je me projetais déjà à la base dans une carrière universitaire à terme.
OK. Mais alors, justement, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter un métier de bureau pour un métier d'amphi?
Alors, sincèrement, c'est un désir très profond. Très profond, c'est-à-dire que j'ai porté cette volonté depuis très jeune, depuis même très petite. Il faut dire que j'ai été portée aussi par un père universitaire. Donc, mon père est lui-même professeur de droit. Donc, je l'ai toujours vu dans son bureau, plongé parmi ses livres, participer à des événements scientifiques. Et ça m'a toujours... j'ai toujours regardé avec beaucoup d'admiration son parcours. Et donc, mais vraiment très petite, j'ai des souvenirs de maternelle où je prenais, à l'époque, mon père préparait sa thèse. Et donc, je récupérais tous ces brouillons et je les emmenais avec moi en classe.
Magnifique.
Et je ne savais pas lire à l'époque,
ouais.
Mais pour me donner la stature de la professeure
universitaire.
Voilà, donc c'est très marrant, c'est quelque chose que j'ai très très tôt porté en moi, donc ce désir d'être dans la transmission, dans le partage de savoir, dans la faculté, avec les étudiants. Donc on peut dire que c'est un peu une vocation aussi.
Ok, mais pourquoi justement pas choisi dès le départ ?
Alors pourquoi, sincèrement, je souhaitais quand même l'immersion dans l'entreprise, dans le monde réel, parce que il faut dire la vérité, quand on est à la faculté, on est dans un monde de savoir, de concepts, de théorie aussi. Beaucoup, j'allais dire, bien qu'on soit aussi dans la vie réelle, mais donc je ne me voyais pas sortir de la faculté pour y entrer juste après en tant que professeur. J'avais besoin quand même de déployer, de développer une expérience pratique sur le terrain. Et d'ailleurs, j'ai commencé par faire des stages en entreprise, en études de notaire, en études d'avocat, en boîte de conseil également. Et c'est ensuite que j'ai été, donc j'ai choisi de faire la fiscalité parce que justement, c'est quelque chose de très concret, de très technique. Et donc, c'est quelque chose effectivement qui m'a beaucoup apporté. Je ne souhaitais pas rentrer à la faculté, adhérer, intégrer le corps professoral sans quand même une expérience pratique.
Oui, c'est important justement pour sortir uniquement du théorique. C'est un point
Absolument,
que vous dénoncez beaucoup aussi.
C'est pour être ancré en fait dans la réalité. Parce que maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre en tant qu'universitaire d'être complètement décorrélé de la réalité, d'être justement dans ce plaisir un peu conceptuel, théorique. On est un relais pour les étudiants et donc il faut qu'on puisse servir aux étudiants pour que le savoir pour le savoir, c'est très bien, c'est un plaisir, mais il faut aussi les aider à être concrets, à s'intégrer dans la vie professionnelle. Donc il faut pouvoir cumuler les deux. Donc c'est pour ça que je voulais absolument être avoir un éclairage pratique ancré dans la réalité à partager avec les étudiants.
Alors par rapport à cette vocation justement, ce métier de vocation par vocation que vous avez choisi très très tôt, il n'y a jamais eu de regrets, il n'y a jamais eu de mauvaises surprises ?
Alors regrets
non,
parce que je suis par nature résiliente et optimiste.
Ok.
Donc, nature.
Mais ça veut dire que mauvaise surprise, oui.
Alors, mauvaise surprise, il y en a toujours, hein, ouais. Parce qu'on a tendance souvent à idéaliser les choses avant de les pratiquer dans la vie réelle. Donc, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'idées préconçues, un peu idéalisées qu'on peut avoir. Donc oui, il y a eu des mauvaises surprises sur la pratique du métier, sur les conditions d'exercice du métier, etc. Mais ceci étant, encore une fois, ma nature résiliente, optimiste, me pousse toujours à essayer de faire avec ce que j'ai, ce que je peux faire de mieux. Voilà un peu la philosophie générale qui, si vous voulez, que j'applique, que j'essaye d'appliquer au quotidien dans mon métier.
Alors, quand on est au sein de l'université, quand on est dans son... Est-ce qu'il y a une différence homme-femme? Est-ce que la femme universitaire est différente de l'homme universitaire?
En lisant, en m'intéressant à la littérature, aux enquêtes, la littérature scientifique sur la question du genre dans le monde universitaire, rapporte un investissement plus important des femmes dans les cours, dans le partage avec les étudiants que, bien sûr, statistiquement, les hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais ça veut dire que nous, les femmes, par nos facilités j'allais dire, naturelles,
ouais.
Toutes les études prouvent que les femmes ont une intelligence émotionnelle, j'allais dire, plus élevée. Par facilité naturelle, on est plus sensible au partage, à l'interaction humaine. Donc naturellement, on sera peut-être plus amené à être à l'écoute. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le font pas. Au contraire, on a la chance d'avoir des équipes qui sont extrêmement investies auprès des étudiants. Mais on va dire que les femmes sont plus impactées, si vous voulez, par l'échange humain à travers les fonctions d'enseignement, ce qui amène peut-être un investissement émotionnel plus intense.
Plus intense. Je pense que même au niveau du management, une femme est plus impliquée émotionnellement avec ses collègues.
C'est notre approche, en fait. C'est ça notre veut pas approche. Dire que l'approche masculine est plus mauvaise.
Ouais,
ça veut dire qu'on développe autrement nos fonctions.
Nos fonctions, tout à fait. Voilà. Absolument. C'est peut-être aussi cet instinct maternel qu'on traîne avec nous.
Oui.
Instinct maternel féminin.
Absolument, je ne voulais pas le dire, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu cet instinct maternel d'être là au service. Oui. Au service. On a naturellement ce besoin, bien qu'on ne soit pas réduit à ça quand même.
Bien sûr.
Plutôt réduit à ça.
Oui,
il ne faut pas aussi tomber dans le piège. Et ce qui m'a étonnée, en fait, c'est que ce ressenti, je l'ai retrouvé dans la littérature scientifique. Donc cette manière un petit peu de beaucoup, beaucoup investir dans les fonctions d'enseignement, d'être moins dans le réseautage, ça c'est on le retrouve également dans les enquêtes qui sont effectuées, les enquêtes de genre appliquées à la fonction universitaire, parce qu'il y a une littérature abondante sur ça.
Mmh. Au Maroc aussi ou qui concerne
d'autres pays? Non, à l'étranger, malheureusement. Oui. Au Maroc, vraiment, il faut s'intéresser à cette question du genre dans le métier universitaire. Parce que c'est un métier important, c'est un métier impactant. Et donc, il faudrait également qu'on puisse, si vous voulez, appliquer toute la doctrine sur le genre, l'appliquer également au niveau de la fonction universitaire, qui présente des spécificités de ce point de vue-là. Donc, j'invite les chercheurs vraiment à investiguer ces questions.
Alors, qu'est-ce qui pourrait rendre votre quotidien de femme universitaire Salma Al-Hassani encore plus positif? Je ne veux pas dire plus agréable, mais plus performant, plus positif.
Alors, je ramènerai peut-être ça d'abord, avant même de parler des moyens de l'université, qu'on est dans des universités publiques. Donc les moyens, malgré toute la bonne volonté de l'administration, et Dieu sait qu'on a un doyen extrêmement soucieux du bien-être des étudiants, du corps professoral, quel que soit. Donc il y a toujours
un Rabat.
Évident. À Rabat, oui, je suis à la faculté de l'EGDEL et j'aurais ici vraiment porté un hommage sincère, authentique aux efforts de notre doyen professeur Khalid Bacha, qui est très à l'écoute, comme je le disais, des besoins du corps professoral, très proche des étudiants et qui en même temps est très sensible à la question féminine. D'ailleurs, avant d'être doyen, il était à la tête du département de droit privé. Il a toujours beaucoup, beaucoup investi dans la promotion, si vous voulez, du leadership universitaire au féminin. Et ça, c'est une qualité rare, suffisamment rare, pour lui rendre hommage. Donc, par rapport à votre question, ce qui rendrait peut-être ma fonction moins plus agréable, c'est d'avoir plus de temps. si je pouvais me dupliquer, ça m'aiderait beaucoup, ça me faciliterait la vie. Parce que c'est vrai, contrairement à une idée reçue, les fonctions universitaires sont extrêmement prenantes, extrêmement chronophages. C'est pas du tout un métier de repos, de sérénité, au contraire.
Pour beaucoup, c'est un métier de luxe, justement, quelques heures par semaine.
Il se trompe lourdement. C'est un métier qui demande un investissement extrêmement important en énergie, en temps et en investissement humain. Donc, parce que on est dans des facultés à accès ouvert, donc on gère des centaines d'étudiants, d'accord. Et puis, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, faire des cours qui sont des cours dynamiques. On arrive à interagir avec les étudiants, on arrive à susciter et à garder l'attention des étudiants à une époque où cette attention est extrêmement sollicitée et les fragmentée. Les étudiants aujourd'hui, je l'ai constaté, qu'au cours de ces 4-5 dernières années, on a beaucoup plus de mal à avoir des étudiants concentrés parce qu'ils sont de plus en plus immergés dans les réseaux sociaux, l'attention très très courte. Donc on a du mal à garder leur attention, surtout quand il s'agit de questions assez techniques, abstraites, conceptuelles. On sait que malheureusement les étudiants ont un niveau qui n'est pas toujours le niveau désiré. Donc tout ça pose des difficultés. Donc il faut faire des cours où on est extrêmement investi pour pouvoir avoir, et garder l'attention des étudiants. On a la recherche qu'on encadre et la recherche pour nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'étudiant-chercheur. Et vous savez que la recherche universitaire est une tâche extrêmement prenante qui demande le temps long.
Exact.
C'est un temps de réflexion. Il faut faire mûrir la réflexion profonde, si vous voulez, pour avoir vraiment une recherche qui apporte la valeur ajoutée. Donc tout ça, et puis tout ce qui est événements scientifiques, tout ce qui est rencontres avec les médias, comme je le fais aujourd'hui, tout ce qui est, bien sûr, ouverture de la faculté sur le monde professionnel, c'est important de pouvoir... tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, c'est du temps qu'on prend sur notre vie de tous les jours. Peut-être qu'en termes d'heures de cours, elles ne sont pas énormes. C'est 8 heures, 10 heures de cours par semaine. Mais le travail qu'il y a derrière, le travail qu'il y a après et le travail qu'il y a à côté, c'est un travail colossal, très sincèrement. Donc, à la maison, on est tout le temps dans nos livres, tout le temps dans notre recherche. Donc, c'est une charge, si vous voulez. Ça vient s'ajouter à la charge mentale qui est, comme vous le savez certainement, propre à la femme.
Alors, justement...
C'est pas du tout un métier de tout repos.
C'est à la maison. À la maison, c'est l'extension du boulot. C'est le bureau.
Absolument.
Est-ce que c'est
tout
compliqué à gérer quand on est maman de 4 enfants, tabarakallah?
Oui, c'est très compliqué. Je ne vous cache pas que c'est très compliqué. C'est pas du tout évident. C'est pas des choses qui se font toutes seules. Ça demande encore une fois un investissement, une capacité à organiser, une capacité à fragmenter, qui n'est pas toujours sans conséquence. Donc, c'est vrai que ça nous fait des journées extrêmement denses. Et puis, on est fatigué en fin de journée, la vérité. C'est pas évident. Mais ça, je pense, c'est commun à toutes les femmes et c'est encore plus accentué quand, et ça, on l'a senti quand on était dans le confinement, quand on était obligé, toutes les personnes étaient obligées de travailler à partir de chez eux. On a pu voir combien c'était compliqué. Parce que justement, on cumulait les charges domestiques aux charges relatives au travail et ça peut beaucoup troubler. C'est pas évident, j'allais dire. C'est pas évident.
Voilà. Alors justement, avec tout cet amour pour ce métier, un amour que vous avez nourri très très petite parce que votre papa justement préparait son doctorat, etc. Aujourd'hui, vous vous dites pas j'étais mieux dans mon bureau quand j'étais au ministère?
Alors, ça peut m'arriver.
Ouais.
Ça peut m'arriver du point de vue de la gestion, si vous voulez, du temps. Parce que quand j'étais au bureau, quand je sortais du bureau, je laissais les dossiers au bureau.
C'est ça.
Et je revenais à la maison avec l'esprit libéré, en fait, des contingences relatives au travail. Alors que maintenant, même quand je suis avec mes enfants, je vais toujours penser aux dossiers que j'ai pas... Enfin, à la recherche que je suis en train de faire, aux étudiants qui m'ont contacté, aux cours. Donc, il y a toujours des choses qui viennent parasiter un peu l'attention. Ceci étant, et c'est pour ça que je parlais, c'est un métier qui exige une vocation. La satisfaction d'être, de se sentir utile, de se sentir aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on a toujours souhaité faire, véritablement laisse très peu de temps et très peu de chance au regret de s'installer, très franchement. Donc la gratification qu'on a avec l'échange avec les étudiants, l'échange avec les collègues et tout ça, très vite ça efface. Voilà, c'est une compensation des efforts qu'on est amené à déployer au service de cette belle fonction.
Alors, Salma Al-Hassani, une question qu'on pose jamais aux pères, aux hommes, qu'on pose toujours aux femmes qui sont mères. Cette gestion vie privée, vie professionnelle, comment vous faites ? Mais c'est vraiment une question qu'on pose jamais aux hommes.
C'est un calcul arithmétique simple. Alors, je fais comme font toutes les femmes, hein, c'est une gymnastique constante. Chaque jour est une gageure de pouvoir et organiser, enfin, accompagner les enfants, gérer leurs devoirs, les accompagner chez les médecins, gérer leurs petits bobos, partager des moments de qualité avec eux et enfin, être à la hauteur des fonctions qui sont les nôtres, qui sont encore une fois des fonctions exigeantes. On n'a pas droit à l'erreur, où il faut faire de son mieux. Donc tout ça, c'est pas évident. Donc je trouve j'essaie de trouver mon équilibre dans une vie que je souhaite être saine, dans le sport déjà, parce que c'est quelque chose d'absolument indispensable pour essayer de trouver justement et de garder cette énergie. J'ai besoin de ma bulle spirituelle, c'est quelque chose qui m'apporte énormément, donc cette connexion spirituelle me fait beaucoup de bien. C'est un moment où je suis dans le rapport à soi, le rapport au divin, et ça permet vraiment de recharger les batteries, de retourner, si vous voulez, aux choses fondamentales. Ça, vraiment, c'est un point d'équilibre important. Les maris, on en parlait, mais c'est vrai que mon mari, il faut dire ce qu'il faut dire, il m'aide énormément. Il faut dire les choses comme elles sont, et son aide est absolument précieuse, parce que je ne peux pas m'en sortir seule. Donc c'est quelqu'un qui... Et là aussi, je reviens au rôle de la mère. Sa maman, dans son éducation, n'a jamais fait de différence entre les garçons et les filles.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elle partageait les tâches domestiques dans une parfaite équité entre sa fille et ses deux garçons. Et donc, lui, naturellement, malgré le fait qu'il occupe quand même un poste important et très prenant, il n'hésite pas à donner un coup de main. Il le fait naturellement, sans me faire sentir qu'il m'accorde un privilège. Et ça, c'est libérateur, déjà. Et puis, on se dit, j'ai un partenaire fiable sur lequel je peux me reposer en cas de faiblesse. Donc, c'est très important. Et j'invite vraiment tous les hommes qui tiennent à l'équilibre de leur couple à être dans le partage des tâches ménagères et dans le partage des tâches domestiques de manière générale, parce que ça apporte vraiment de l'équilibre au couple. Vraiment.
Et donc, c'est quelque chose que vous faites aussi par rapport à vos enfants ?
Oui, que je fais. J'ai un garçon, l'aîné, et trois filles. Donc, j'ai des jumelles, Lina Rita, la petite Ralia et l'aîné Esmen. J'ai tenté de le faire avec Esmen, mais c'est vrai que, bon, il n'a jamais adhéré de manière tout à fait totale à ce que je prenais, mais ça, c'est plus, on va dire, dû à la nonchalance de l'adolescent, plutôt à une différence qu'il ferait entre lui et ses sœurs. Donc, j'ai toujours prôné l'égalité des tâches à la maison, quoique lui, il n'a jamais pris, là, maintenant, il est à l'étranger, mais c'est vrai que le travail domestique, en général, il a toujours été un peu réticent à le faire, mais j'ai toujours tenu à lui laisser sa part, quand même, quelle que soit la résistance qu'il
a. C'est ça. Et puis, il y a le modèle paternel, en fait, il y a le modèle parental. C'est-à-dire
Absolument.
Que d'une manière ou d'une autre, il s'imprègne.
Absolument. Au-delà de ce qu'on peut dire, au-delà de ce qu'on peut prôner comme discours, souvent ça les baratine, je me dis qu'une fois qu'il sera installé chez lui, avec son épouse, je suis certaine qu'il sera un partenaire à part égale dans les tâches domestiques, parce qu'il a vu son père le faire sans complexe. Et avec bonne volonté, bienveillance. Donc je pense que les choses, nos gestes valent beaucoup plus chez nos enfants que notre attitude, nos gestes.
Que nos paroles, absolument.
Voilà. Je voudrais, avant de vous quitter, si vous me le permettez, rendre un tout petit hommage à ma mère. Parce
Bien
que
sûr.
Ça a été une figure qui m'a énormément portée. qui m'a énormément inspirée. C'est une, alors elle est mère au foyer, mais c'est une personne qui a toujours débordé de projets, d'initiatives, d'énergie. Donc le fait de l'avoir évolué dans la vie en étant toujours portée par cette énergie, cette envie créatrice, c'est vrai que ça m'a toujours inspirée. Donc, quelles que soient les difficultés qu'elle pouvait avoir à accéder au projet qu'elle a souhaité susciter, d'ailleurs à l'époque, mais cette énergie a toujours été là. Donc, je voulais vraiment rendre hommage à l'énergie qu'elle a toujours déployée dans sa fonction de maman, dans sa fonction de femme. Donc voilà, un petit hommage. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous, Salma. Merci infiniment. Mais d'ailleurs, je pourrais la recevoir en femme d'aujourd'hui, hein.
Bah, avec grand plaisir. Ça,
voilà, je reçois des jeunes femmes et leur maman aussi. Beaucoup m'ont donné le contact de leur mère.
Bah, super, avec plaisir.
L'alerte excellemment. Merci infiniment.
Berli.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.